Ok, trop bien. Je suis trop contente de faire ça avec toi. Est-ce que tu veux qu'on aille direct dans le sujet que j'ai prévu?
Vas-y.
Je préparais le podcast et en préparant, je me suis dit comment je peux commencer ce podcast sans que tu aies l'impression de redire toujours la même chose et surtout sans que tu aies l'impression, enfin en étant le plus juste possible pour toi. Et la première question qui m'est venue, c'est quoi tes trois valeurs aujourd'hui par rapport à avant?
Donc, qu'est-ce que je valorise aujourd'hui que je valorisais pas
Ouais.
avant? Ok. Je pense que un truc que j'aurais jamais pensé dire, mais je pense que j'ai appris à valoriser les gens. Ouais, j'ai appris à valoriser les gens. Je pense qu'avant, je valorisais moi, mes résultats, mes accomplissements. Et les gens étaient qu'une forme, on va dire, d'utilité pour moi. C'est-à-dire que, ils étaient utiles ou pas utiles. Ils étaient utiles, ils restaient dans ma vie. Ils n'étaient pas utiles, ils sortaient de ma vie. Voilà, c'était aussi simple que ça. Et puis, je pense que j'ai eu différents événements qui m'ont amené à me rendre compte de. C'est bien d'avoir tous ces accomplissements, mais quand tu es seul avec tous ces accomplissements, le jour où tu te retrouves seul avec tous ces accomplissements, tu te sens sacrément vide. Et petit à petit, ça a fait évoluer ma compréhension de. En tout cas, ça a fait évoluer ce que je valorise, avec vraiment le fait de valoriser les gens et d'apprécier passer du temps avec les gens, même sans but. Avant, il fallait toujours qu'il y ait un but. Et aujourd'hui, je peux passer du temps avec les gens, même sans but, entre guillemets. Je pense que voilà, ça c'est vraiment la première chose fondamentale qui a évolué. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a évolué? Je pense que ce qu'il y a d'autre qui a évolué aussi, c'est réaliser ce que je suis. Ce que je suis et pas poursuivre par rapport à ce que je crois que je dois être. J'aime beaucoup cette idée de Tony Robbins qui dit que, en fait, dans l'entrepreneuriat, on peut être trois types de personnes. On peut être un artiste, on peut être un entrepreneur et on peut être un leader manager. L'artiste, c'est celui qui adore créer, qui se lève le matin. Lui, ce qu'il adore, c'est créer, c'est faire son truc. Si c'est un peintre, ce qu'il aime, c'est faire sa peinture. Si c'est un coach, ce qu'il aime, c'est faire le coaching. Ce qu'il aime, voilà. Ensuite, il y a l'entrepreneur. Lui, ce qu'il aime, c'est les hauts et les bas de l'entrepreneuriat. Il s'en fout un peu du produit qu'il vend. Tant qu'il a le fait d'entreprendre, de créer des choses, d'avoir toute cette adrénaline, d'aller au bout du projet. Et la dernière chose, c'est le leader manager. C'est celui qui adore organiser une équipe, qui adore mettre en place les process, qui adore s'assurer que tout roule, qui adore faire grandir les gens dans une équipe, tout ça. Et en fait, pendant longtemps, j'ai cru que j'étais un entrepreneur parce que je crois que l'entrepreneur est quelque chose peut-être de plus valorisé dans nos sociétés. Mais je pense qu'avec le temps, je me suis rendu compte qu'avant d'être un entrepreneur, j'étais surtout un artiste et que pour moi, l'entrepreneuriat était juste un moyen pour moi d'être un artiste et de faire ce que j'aime, qui est écrire, qui est faire du coaching, qui est faire ses podcasts, en tout cas, qui est autant de transmettre. Et je pense que ouais, ça c'est un truc qui a vraiment changé en moi. Et du coup, d'apprendre à valoriser le fait de. Il n'y a pas uniquement la valeur horaire de ce que je fais qui compte, il y a à quel point ça me nourrit. Ouais. Et donc, je pense que avant, par exemple, dans ma tête, si je faisais du coaching, il fallait absolument que ça rentre dans mon business model, que ça cannibalise pas les autres produits, que le coaching soit positionné au-dessus. Et aujourd'hui, ce qui compte pour moi, c'est juste, si j'ai envie de faire du coaching, c'est quoi le modèle qui va me permettre de faire le plus de coaching possible? Peu importe l'autorité que ça m'apporte ou non sur le marché, la crédibilité que ça m'apporte ou non. Voilà, donc je pense que c'est une deuxième chose qui a beaucoup changé. Et la troisième chose qui a changé dans ce que je valorise, ça va te faire rire parce que tu es au courant sur les vidéos YouTube. Il me dit, un client que j'ai depuis longtemps qui m'envoie un message qui me dit Ah, en fait, tu travailles plus avec la personne qui te faisait les vignettes et tout, tes vignettes YouTube, qu'est-ce que tu en penses? Et je lui dis, non, voilà, il y avait deux, trois raisons pour lesquelles ça allait pas. Et il me dit, est-ce que tu as retrouvé une nouvelle personne? Du coup, tu as recruté une nouvelle personne que tu pourrais me recommander sur les vignettes? Et je lui dis, non. Je lui dis, va voir ma chaîne YouTube et tu verras si j'ai quelqu'un pour les vignettes ou pas. Et il me répond un truc, il me répond, ah, mais c'est ouf de voir comment tu as changé sur ton envie d'optimiser les choses. C'est-à-dire qu'avant, tu pouvais être sûr que tout était optimisé. Si je publiais une vidéo YouTube, il fallait que la vignette, elle soit bien et tout. Et je lui ai répondu une chose, je lui ai dit... Qu'est-ce qu'il m'a dit exactement? Attends, je reprends le message parce que... C'était... Il me dit... Décidément, t'es vraiment plus un dingue de l'optimisation. Et je lui dis, si, c'est juste que ma métrique a changé. Je suis un dingue de l'optimisation de mon inspiration. Et je pense que c'est ce qui a changé. C'est la métrique que je priorise. La métrique que je priorise, c'est comment je peux faire ce que j'aime et être utile aux autres. Alors qu'avant, c'était comment je peux gagner le plus d'argent possible en faisant ce que je fais. Voilà.
Et est-ce que tu crois qu'on peut faire ce qu'on aime avant que ça ait un business qui fonctionne, tu vois? Parce que c'est ce que je t'entends beaucoup dire en ce moment, mais est-ce que depuis le début, tu aurais pu faire ça, tu vois? Est-ce que toutes les personnes qui veulent se lancer dans le coaching parce que c'est ce qu'elles veulent faire, elles peuvent vraiment le faire au début?
Ouais. J'adore cette objection. je l'ai souvent. Je dirais oui avec de la nuance. Je dirais oui avec de la nuance. Oui, dans le sens où je pense toujours que la meilleure manière de développer un business, c'est de faire ce que t'aimes. Ça veut pas dire que tu dois pas ajouter des... c'est de faire ce que t'aimes d'une manière qui bénéficie aux autres. Et c'est ça que les gens entendent pas dans ma phrase. Je dis pas faire ce que t'aimes, je dis faire ce que t'aimes d'une manière qui bénéficie aux autres. Faire ce que t'aimes, c'est en gros, moi j'ai envie de faire du coaching, donc je vais dire aux autres, les gars, je fais du coaching, achetez. Et dans ce cas-là, effectivement, on va arriver à la conclusion que ça ne marche pas de faire ce qu'on aime. Mais faire ce que j'aime d'une manière qui bénéficie aux autres, c'est une démarche qui est différente. C'est une démarche de commencer par identifier qu'est-ce que j'aime faire. Il y en a qui adorent créer du contenu par écrit, il y en a d'autres qui adorent créer du contenu quand ils sont face à une audience, il y en a qui adorent créer du contenu d'une autre manière, il y en a qui n'aiment pas créer du contenu mais qui adorent rencontrer des gens en présentiel. Bref, il y a plein de choses qu'on peut aimer. Mais une fois que j'ai identifié ce que j'aime, par exemple, moi j'aime parler avec des gens, j'aime transmettre, mais j'aime transmettre quand il y a des gens face à moi. C'est pour ça que t'es là. C'est pour ça que t'es là. Et si j'étais juste en mode, bah écoute Morgan, moi j'adore faire ça, donc vas-y, juste on va faire ça, ça marcherait pas. Mais je t'ai demandé, tu vois, de le faire d'une manière en plongeant dans les questions que peut se poser mon audience. Donc d'un coup, c'est faire ce que j'aime, mais l'avoir adapté pour que ça soit d'une manière qui bénéficie aux autres. Et je pense que c'est vraiment cette nuance d'une manière qui bénéficie aux autres, c'est constamment, je vais prendre en compte dans ce que j'aime, je vais prendre en compte c'est quoi les bénéfices pour les autres, je vais apprendre à le communiquer d'une manière où les autres en bénéficient. Et c'est vraiment cette nuance en fait. C'est vraiment cette nuance et je pense que les gens sont l'un ou l'autre et ils n'arrivent pas à créer un mix. Donc c'est soit en fait, je me base juste sur le client idéal et je copie-colle des modèles qui marche et qui bénéficie aux autres, mais au final, au bout de 2 mois, j'en peux plus. Soit, autre option, je suis juste centré sur moi et je dis aux gens que je vends du coaching et je dis aux gens que je fais ça et je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils achètent pas. Parce que si demain je fais un webinaire sur, par exemple, imaginons que je sois passionné par notre système de croyance. Voilà, imaginons, j'adore le système de croyance. Faire ce que j'aime, c'est dire. Les gars, j'organise un webinaire sur comment fonctionne le système de croyance et sur comment fonctionnent les neurosciences autour du système de croyance. Ça n'a pas marché. Par contre, si je prends le temps de me demander c'est quoi le bénéfice pour mes clients d'apprendre autour du système de croyance, en quoi ça va les aider, en quoi ça va changer leur vie, d'un coup, ma communication va être complètement différente. Et le webinaire, je ne vais d'ailleurs pas l'appeler webinaire sur le système de croyance. Je vais l'appeler comment obtenir ce que vous voulez le plus, donc selon mon audience. Si j'aide les femmes, par exemple, qui galèrent dans leurs relations amoureuses, qui sont dans des relations toxiques, je vais pas dire webinaire sur le système de croyance. Je veux dire, l'élément numéro un qui fait que vous continuez à être dans des relations toxiques et comment vous en libérer. Et c'est ça la différence. C'est ça la différence essentielle. Donc, je pense que oui, tu peux faire ce que tu aimes, mais tu dois être aussi profondément intéressé par en quoi est-ce que ça bénéficie les autres. En quoi est-ce que les autres en bénéficient.
Et tu vois, il y a une question qui est hyper revenue, enfin, qui rebondit à ce que tu dis. Pendant la coaching week, on m'a énormément demandé c'est quoi la différence entre valeur et besoin. Et tu vois, il y a plein de personnes pour qui c'est pas clair. Est-ce que tu pourrais revenir dessus, juste pour, la manière la plus simple pour l'expliquer?
Ouais. J'ai réfléchi il y a deux jours parce que j'ai vu passer la question tellement de fois. Donc, je regarde ce que j'ai noté. Ce que j'ai noté après y avoir réfléchi, c'est nos besoins sont vitaux, inchangeables, relatifs à notre physiologie et à notre évolution, et ils nous amènent à survivre. C'est-à-dire que on a tous un besoin de sécurité, on a tous un besoin de variété, on a tous un besoin d'estime de soi, on a tous un besoin de connexion. Bref, on a tous ces besoins. Okay, ils sont inchangeables, immuables, relatifs à notre physiologie. Nos valeurs, elles, de leur côté, elles sont construites, basées sur la perception de ce qui nous manque. Donc, tous les humains ont un besoin de connexion. Par contre, tous les humains n'ont pas une valeur d'apprendre comment fonctionne l'humain, par exemple. Tous les humains n'ont pas une valeur de prendre soin de leurs enfants. Tous les humains n'ont pas une valeur autour de la nutrition et de comprendre comment fonctionne la nutrition. Donc, nos besoins, ils font partie de nous, ils sont inchangeables, ils sont en lien avec notre corps et on ne peut pas les changer alors que nos valeurs, elles sont construites, basées sur la perception de ce qui nous vide, donc de ce qui nous manque. Donc, nos besoins, je dirais qu'ils sont universels alors que nos valeurs, elles sont complètement individuelles. Maintenant, là où ça peut paraître non clair, c'est que nos besoins peuvent devenir des valeurs puisque étant donné que nos valeurs sont la conséquence de ce qui nous manque, de la perception de ce qui nous manque, dès lors que j'ai la perception que quelque chose est manquant dans ma vie, ça va devenir une valeur. Donc, si je me sens en insécurité constamment dans ma vie, alors être en sécurité devient à la fois un besoin et à la fois une valeur. Donc, c'est sûr que des valeurs qui vont être nos valeurs, elles peuvent se situer à différents niveaux de la pyramide de Maslow, donc à différents niveaux de nos besoins. Si j'ai pas de sécurité intérieure et extérieure, d'ailleurs, toutes mes valeurs vont tourner autour de la sécurité. Si j'ai pas de connexion, toutes mes valeurs vont tourner autour d'être connecté avec les autres. Une fois que j'ai une base qui est relativement solide sur mes besoins, c'est là que mes valeurs intrinsèques vont pouvoir émerger. Puisque pour moi, mes valeurs intrinsèques, c'est des valeurs qui vont émerger à un niveau de la pyramide de Maslow qui est de l'ordre de l'accomplissement de soi. Donc, qui est de l'ordre vraiment de la réalisation de soi. Et j'aime bien cette idée que vis-à-vis des besoins que donne Tony Robbins, qui est que nos quatre premiers besoins fondamentaux sont universels et on trouvera une stratégie pour les remplir quoi qu'il arrive. Donc, sécurité, variété, importance et connexion, amour. On trouvera pour ces quatre besoins une manière de les remplir quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que même si je suis au fin fond de la jungle et que j'ai personne autour de moi, que j'ai personne qui me valorise, qu'il y a des lions qui vont m'attaquer, dans ma tête, je vais me raconter une histoire, je vais partir dans un fantasme qui fait que j'arrive à me raconter que je suis connecté et à les nourrir. Par contre, Tony Robbins, dans les besoins, va nommer croissance et contribution, qui sont les deux derniers besoins, des besoins spirituels, qui, eux, sont un privilège qu'on a en tant qu'humain de pouvoir s'y attaquer. Et on va pouvoir s'y attaquer que si nos quatre premiers besoins sont suffisamment remplis. Et les stratégies qu'on va utiliser pour remplir nos deux derniers besoins, donc ces besoins spirituels, sont pour moi nos valeurs intrinsèques.
Comment tu fais la différence entre des valeurs qui sont vraiment propres à toi et des valeurs que les autres vont te projeter sur toi? Tu vois, typiquement, enfin même à titre perso, il y a des choses, j'arrive pas à savoir si c'est mes valeurs parce qu'au fond de moi, ça compte, ou parce qu'on t'a tellement grandi en t'insufflant quelque chose que c'est pas toi. Et du coup, tu peux pendant des années, ou même des années, suivre un chemin qui est pas le tien et sans t'en rendre compte que t'es pas en train de suivre ton chemin, toi.
Pour moi, le seul et unique indicateur, c'est tes symptômes. Est-ce que tu fais l'expérience de symptômes de justesse ou est-ce que tu fais l'expérience de symptômes de détresse, pour utiliser les mots de Nicolas Proupin? Symptômes de justesse, c'est je me sens énergisé, j'ai de la clarté d'esprit, j'ai envie, mes pensées sont ordonnées. Voilà, essentiellement ça. Je me sens confiant, j'ai envie de le faire. C'est même pas une question de est-ce que je doute ou pas, je suis en train de le faire, je le fais. Quand je m'engage sur ça, je le fais naturellement. À l'inverse, dans ce qui n'est pas dans mes valeurs, dans ce qui est des valeurs injectées, je vais avoir un dialogue interne négatif, je vais commencer à me juger, je vais chercher à compenser pour me donner de l'énergie, puisque je n'ai pas de l'énergie naturelle pour le faire. Je vais peut-être avoir envie d'aller grignoter des trucs, je vais peut-être avoir envie d'alcool, je vais peut-être avoir envie de choses pour éteindre la douleur de ne pas faire ce que j'aime. Et pour moi, c'est quelque chose qui est un chemin de découverte constant, puisqu'on vit dans un environnement dans lequel constamment on va prendre des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Et la question, tu vois, c'est pas est-ce que je suis dans mes valeurs ou pas dans mes valeurs, c'est plutôt qu'est-ce qui aujourd'hui n'est pas dans mes valeurs, qu'est-ce que je me force aujourd'hui qui n'est pas dans mes valeurs. Et cette question, elle existera toujours, puisqu'on existera toujours dans un environnement. Et on peut pas tout remettre en question constamment. On a besoin à certains moments de modéliser, on a besoin à certains moments d'expérimenter ce qui n'est pas nous pour découvrir ce qui est nous. Parce que, tu vois, dans ta question de qu'est-ce qui est de l'ordre de moi et qu'est-ce qui est de l'ordre des autres, ben, cette question, elle existe que cette séparation, pour la découvrir, tu es obligé d'en faire l'expérience. Tu vois, tu es obligé de faire l'expérience, de faire des trucs qui t'enthousiasment pour te rendre compte que, ah non, en fait, c'était juste un fantasme. Donc, pour moi, c'est un chemin de découverte constant, je dirais. Et le seul indicateur, c'est quels sont les symptômes dont je fais l'expérience. Et je pense qu'il y a un truc que j'ai fait vraiment pendant longtemps et que je continue à faire, peut-être à une fréquence un peu moins grande, c'est vraiment à la fin de chaque semaine, je prenais ma semaine et je me demandais qu'est-ce qui m'a donné de l'énergie cette semaine et qu'est-ce qui m'a drainé. Et juste, je faisais la liste. Et une fois que tu as identifié ce qui t'a drainé, tu as plusieurs solutions. Soit tu arrêtes, soit tu le délègues. Soit, troisième chose, tu y donnes un sens. Parce que je pense qu'il y a des choses que tu peux soit ne pas déléguer, soit que tu ne peux pas déléguer, ou des choses que tu ne peux pas supprimer parce que c'est trop important dans le cadre d'un objectif plus grand que tu as. Et à ce moment-là, tu le relis à tes valeurs. Comment est-ce que tu le relis à tes valeurs? Je vais te donner un exemple. Avant-hier, j'avais un entrepreneur qui est dans le processus de vendre sa boîte en coaching. Et il me disait, mais Julien, je freine des quatre pièces. Ça me fait tellement chier toute cette partie paperasse, vendre l'entreprise. C'est tellement chiant. Moi, ce que j'aime faire, c'est voyager, c'est entreprendre, c'est créer des choses. Et c'est également faire les soins, puisqu'il est dentiste. Et il me dit, ça me fait tellement chier ce truc-là. Et du coup, je lui ai demandé, ok, mais en quoi est-ce que faire ces papiers va t'aider à devenir la personne que tu as besoin de devenir pour créer la vie que tu veux? Et au début, il me dit, bah, je sais pas, je vois pas, franchement, ça n'a aucun intérêt de faire des papiers. Je lui ai dit, ok, mais est-ce que apprendre à vendre une boîte et être à l'aise à vendre une boîte, est-ce que c'est pas ce qui est nécessaire pour vivre la vie que tu veux? Parce que tu m'as dit que tu étais quelqu'un qui changeait de projet tous les 2 ans, qui avait envie de recréer des choses tous les 2 ans. Est-ce que tu vois en quoi est-ce que apprendre à vendre une boîte, c'est la compétence nécessaire pour t'autoriser durant le reste de ta vie à créer ce que tu veux? Et au moment où je lui propose cette perspective, ça clique dans sa tête et il me dit, ah ouais, en fait, carrément, en fait, c'est vrai qu'apprendre à vendre une boîte et que ça devienne facile pour moi, c'est exactement ce dont j'ai besoin pour créer la vie de mes rêves. Parce que plein de fois, j'ai des projets, puis je me dis, je ne vais pas les faire parce que je ne suis pas sûr d'en avoir encore envie dans 10 ans. Et du coup, à ce moment-là, il dit, putain, en fait, j'ai presque envie de raccrocher et d'aller faire ces putains de papiers et d'apprendre à vendre ma boîte, parce que d'un coup, ça prend un autre sens. Donc, supprimer, déléguer ou relier à nos valeurs, c'est les 3 options qu'on a pour donner du sens à une tâche qui ne nous en donnait pas et pour sortir des symptômes de détresse.
Comment tu fais la différence entre des choses qui n'ont aucun sens pour toi et donc tu es dans la mauvaise direction, et des choses où juste tu es obligé de passer par là pour atteindre ce que tu veux? Et même au sens, en fait, je parle de personnes qui sont en coaching, mais je pense que ça marche pour n'importe quel entrepreneur, d'avoir des moments où tu es dans ton business, tu n'es plus inspiré, Et comment tu sais où tu vas ressentir ce truc de « ok, j'arrête » ou alors « je donne du sens et je continue un peu plus loin » ?
Ouais, c'est une bonne question sur laquelle j'ai pas une réponse, mais je dirais, je me souviendrai toujours d'une discussion que j'avais eue avec un de mes mentors il y a, on est en 2024, le temps passe vite, il y a 5 ans. Et il y a 5 ans, et il me racontait un peu son histoire. Et en fait, le gars gérait 8 boîtes en même temps. Dans sa vie, il avait créé plus de 50 boîtes. Et il avait plein de boîtes. Et il avait plein de projets. Il arrêtait, puis il redémarrait, tous ces trucs-là. Et à ce moment-là, ça venait à l'encontre d'une croyance que j'avais appris, qui était « il faut rester focus sur un projet ». Et moi, je le vois avec ces 8 projets comme ça. Et je me dis « mais de où il est focus, lui, tu vois ?» Et pour autant, ça marchait pour lui. Et du coup, je lui dis « mais en fait, comment tu décides quand tu arrêtes une boîte ?» Et il m'avait répondu une phrase, il me dit « when it's not fun anymore ». Et donc, quand c'est plus fun. Et cette phrase, elle m'avait tellement marqué. Je sais pas pourquoi, mais elle m'avait sûrement pas... Si, je sais pourquoi. Parce que avec le recul, j'étais dans une période où « it was not fun anymore ». Et ouais, donc... mais ça, c'est parce que il était dans une période dans laquelle ce qu'il valorisait, c'était à quel point c'est fun. Si ce que je valorise actuellement, c'est qu'est-ce qui va me rapporter de l'argent. En fait, encore une fois, on en revient à ton système de valeurs. C'est-à-dire que la réponse pour chaque personne, elle est différente. Par exemple, ma chérie, actuellement, elle a une de ses boîtes qui est... qui l'inspire plus trop. Enfin, tu vois, c'est assez lourd pour elle. Et elle continue pour une raison, c'est que cette boîte, c'est une grosse partie de son revenu. Et également, il y a assez peu d'efforts pour pouvoir réussir à la vendre. Moi, je serais dans son cas, j'arrêterais direct. C'est-à-dire que si j'ai une boîte qui me fait plus plaisir, même si c'est une grosse partie de mon revenu, et que je pourrais la vendre, j'arrête direct. Mais parce que elle, sa priorité dans la vie, c'est ses enfants, et dans la vie, pour elle, dans sa vie, sa priorité, c'est ses enfants, et pour elle, une des choses qu'elle valorise le plus pour ses enfants, c'est qu'ils soient dans un environnement hyper sécurisant. Et un environnement hyper sécurisant, pour elle, c'est une maison qui est harmonieuse, qui est belle, qui est tout ça, et là, elle a un investissement de plusieurs centaines de milliers d'euros à faire dans la maison. Donc, encore une fois, selon ton système de valeur, tu es prêt à payer des prix différents. Moi, mon système de valeur, c'est je veux faire ce que j'aime avant tout. Elle, c'est je veux apporter à mes enfants la sécurité avant tout. Donc, cette question, pour moi, elle est dépendante de chacun. Je pense juste qu'il y a un problème chez beaucoup d'entrepreneurs, c'est que ils veulent tout en même temps. Et je pense que la première chose, c'est de savoir pourquoi est-ce que tu optimises. Est-ce que tu optimises pour ton épanouissement? Est-ce que tu optimises pour ton taux horaire? Est-ce que tu optimises pour ta découverte? Est-ce que tu optimises pour ta croissance? Est-ce que tu optimises pour l'impact que tu vas avoir? Et là où ça devient compliqué pour prendre des décisions, c'est quand tu as oublié pourquoi est-ce que tu optimisais. Et que quand tu as oublié pourquoi est-ce que tu optimisais, tu vas constamment comparer tes propres actions avec ce que valorise la société et l'optimisation de la société. Et l'optimisation de la société, c'est quoi? C'est le statut en général. Donc, le statut, c'est tout ce qui va permettre plus de notoriété, plus de reconnaissance sociale, plus d'argent. Et donc, si tu n'es pas clair au fond de toi sur pourquoi est-ce que tu optimises, tu vas, par défaut, te mettre à optimiser pour les métriques de la société, qui sont, ce que je viens de dire, argent, notoriété et reconnaissance sociale. Et le problème, quand tu commences à optimiser pour ça, c'est que tu vas constamment avoir un conflit intérieur. Puisque même si tu essaies d'optimiser comme ça, il y aura une part de toi qui te dira « Eh, en fait, c'est quoi, on ne veut pas optimiser pour ça. C'est pas ce qui nous inspire vraiment. » Et donc, c'est essentiel pour moi de savoir pourquoi est-ce que tu optimises. Et ça, c'est une question qui se découvre et qui change en plus. C'est-à-dire que ça dépend des phases de vie, ça dépend de plein de choses.
Et est-ce que tu penses qu'on n'est pas obligé de passer par un extrême avant de trouver l'équilibre? Et de... Parce qu'en fait, au final, si tu n'as jamais encore lancé de business, tu ne peux pas ouais. savoir pourquoi tu finis. Enfin, même là, tu vois, perso, aujourd'hui, je sais pas pour... Enfin, c'est dur de savoir et de se dire, OK, c'est vraiment pour ça que je le fais. Et du coup, tu dirais quoi à une personne qui a lancé un business et qui n'arrive pas à savoir exactement, qui n'arrive pas à trouver c'est quoi la valeur numéro un de son business?
Je l'amènerais déjà à prendre un papier, un crayon, regarder dans les 45 derniers jours, c'est quoi les moments où elle s'est sentie le plus en vie, le plus vivante, le plus connectée à elle-même, le plus présente dans l'instant, en dehors de son mental et en dehors du doute, de plein de choses. C'est la première chose que je l'amènerais à regarder. Une fois qu'elle a identifié ça, de là va émerger une forme de découverte de ses valeurs, on va dire, de surface. Ces valeurs de surface, ça va peut-être être, je me suis senti pleinement connecté à moi-même quand j'étais en train de faire des podcasts, par exemple. Okay? Et à partir de là, je vais lui demander, okay, reviens dans le moment où tu es en train de faire le podcast. Qu'est-ce que ça signifie pour toi dans ce moment-là? Qu'est-ce que ça signifie pour toi de faire le podcast? Qu'est-ce qu'il y a en dessous de faire ce podcast? Qu'est-ce qu'il y a particulièrement dans ce podcast qui t'inspire et qui fait que tu es pleinement présente là-dedans? Et là, elle va peut-être me dire, dans ce moment-là, je me rends compte que j'ai l'impression d'utiliser tout ce que j'ai appris ces 10 dernières années pour aider des gens qui étaient dans ma situation il y a 10 ans. Ok, là, peut-être qu'on touche à une vraie valeur et à quelque chose de plus profond. Parce qu'il y a une différence entre tes valeurs et ta raison d'être. C'est quoi la différence? C'est que tes valeurs, c'est qu'est-ce que tu valorises toi, et ta raison d'être, c'est qu'est-ce que tu valorises toi d'une manière qui bénéficie aux autres. Donc, par exemple, peut-être que mes valeurs, c'est apprendre sur l'humain, peut-être que mes valeurs, c'est transmettre sur l'humain, et ma raison d'être, c'est peut-être transmettre sur l'humain pour permettre aux autres de X, Y, Z. Okay, donc la raison d'être, c'est vraiment le pont entre mes valeurs et ce que le monde a besoin. Et c'est en gros, qu'est-ce que je fais sur cette terre? C'est quoi ma place dans un ordre plus grand? Je l'aiderais à identifier ses valeurs, sa raison d'être. Et puis, ensuite, je l'aiderais à identifier c'est quoi l'ordre de priorité qu'elle a actuellement. Parce que peut-être que ses valeurs, c'est ça. Mais peut-être qu'à court terme, aussi, elle a besoin d'argent pour je ne sais quoi. Parce qu'elle a des enfants, parce que X, Y, Z. Et à partir de là, je l'aiderais à voir qu'est-ce qu'elle perçoit comme des choses qu'elle doit faire, mais qui la fait chier. Donc typiquement, elle va me dire, non, mais moi, j'adore Julien faire ça. Par contre, chaque fois que je dois faire un post Instagram, c'est horrible. Et je l'aiderais à voir, est-ce qu'il existe une autre alternative pour arriver au même objectif? Si ton but c'est d'arriver à avoir de la visibilité, est-ce qu'il n'existe pas une autre manière plus stratégique pour toi, en fonction de qui tu es, en fonction de ce que tu aimes faire, est-ce qu'il n'existe pas une autre option pour pouvoir être visible? Et si vraiment il n'y en a pas, ce qui peut arriver parfois, je pense qu'il y a des compétences qu'un entrepreneur doit apprendre, qu'il aime ou pas, s'il veut éviter de galérer, qui sont la capacité de communication, qui sont avant tout la capacité de communication. Si tu sais communiquer, qu'elle soit par écrite, par oral ou ce que tu veux, t'es libre de beaucoup de choses. Donc ouais, apprendre à communiquer, apprendre à vendre, ça c'est un truc pour moi que tu dois apprendre à un moment donné, que t'aimes ou que t'aimes pas. Et donc, dans ce cas-là, je l'aiderai à voir en quoi est-ce que ça va t'aider aujourd'hui et demain pour aller réaliser tes rêves, pour devenir la personne que tu veux devenir, d'apprendre à vendre. Et j'essaierai de voir qu'est-ce qu'il y a également dans sa manière de voir les choses qui l'empêche de prendre du plaisir là-dessus. Parce que parfois, c'est juste, on a associé une croyance à une activité qui fait que ça ne fait pas sens pour nous, mais si on change le sens de l'activité, d'un coup, c'est différent. Par exemple, hier, j'ai une session avec une cliente et elle me dit, je supporte pas vendre, je déteste vendre, je suis ultra nul en vente et je vois bien que c'est un problème. Parce que je vais voir un peu ses réseaux, elle a plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, elle a une belle communauté, et elle me dit qu'elle a du mal à vivre de son activité de coaching. Et au début, je, comprends pas. Je me dis, ok, c'est pas un problème de visibilité, elle a de la visibilité. Ça doit être un problème. Elle me parle de son offre, ça a l'air cohérent, mais il y a un pont entre la visibilité et l'offre qui se fait pas, qui est la vente. Et du coup, je dis, ok, à quoi tu veux pas être associé en faisant de la vente? Et elle me dit, moi, je veux pas être quelqu'un qui vend du rêve. Et à ce moment-là, on change sa croyance à cet endroit-là. Je lui demande, en quoi est-ce que ce sera un bénéfice pour les gens que tu leur vends du rêve? Et elle me dit, non, je vois pas, il n'y a pas de bénéfice à ce que tu vendes du rêve à quelqu'un. Et je dis, ok, on va faire autrement. Donne-moi un endroit dans ta vie où tu vends du rêve actuellement. Et elle sourit. elle sourit, elle me dit, ouais, bon, je vends un peu du rêve avec les mecs que je rencontre. Parce que c'est sûr que... Et elle me raconte, je dis, sous quelle forme tu leur vends du rêve? Elle me dit, bah, quand j'ai un date et tout, je lui dis que moi, de toute façon, dans un couple, le principal, c'est la liberté et que je veux juste que chacun fasse ce qu'il veut, quand il veut et faire ce qu'il aime. Alors qu'au fond de moi, je sais très bien que si je suis en couple, ça va me rendre dingue si le gars, il fait ce qu'il veut et qu'il est jamais là. Et je dis, ok, et c'est quoi les bénéfices pour le mec que tu lui vendes du rêve, justement? Et elle me dit, ben, en fait, le bénéfice pour le mec, c'est que du coup, il peut s'engager dans la relation avec moi et je pense que c'est cool d'être en relation avec moi. Je dis, ok, et si tu l'avais dit, tu penses qu'il ne s'engagerait pas? Elle me dit, ouais, probablement pas. Et je dis, ça serait quoi l'inconvénient? Elle me dit, ben, en fait, il ne découvrirait pas ce que j'ai à apporter dans un couple, il ne découvrirait pas tout ça. Je dis, ok, maintenant, en quoi ça serait un bénéfice pour tes clients? En quoi c'est un bénéfice pour tes clients que tu leur vends du rêve? Elle me dit, ah ouais, en fait, si je leur vends du rêve, du coup, ils vont découvrir ce que j'ai à leur apporter qui a transformé ma vie et qui a déjà transformé la vie de dizaines de clients. Et en fait, je vois à quel point vendre du rêve, ça peut être utile. Et là, elle me dit, en fait, je viens de cliquer quelque chose dans ma tête. C'est que jusqu'à maintenant, je croyais que c'était moi que je devais vendre. Et ça me mettait trop de pression de me vendre moi. Et là, je viens de réaliser qu'en fait, c'est pas moi que je vends, c'est leur rêve que je leur vends. Et d'un coup, ça me donne de l'énergie. Donc, parfois, c'est juste changer la perception et la croyance qu'on a au fait de faire quelque chose. Puisque parfois, ce n'est pas une question de est-ce que c'est dans mes valeurs ou non, c'est une question de quelles sont les croyances qu'on a associées à cette action. Et ouais, quelles sont les croyances qu'on a associées à cette action?
Du coup, si je synthétise un peu les trois sujets que tu as dit, ouais, pour les personnes qui écoutent, c'est première chose, tu te concentres sur ce que t'aimes, ce qui fait sens pour toi et tu fais attention à tes symptômes. Deuxième chose, si tu as besoin de quelque chose pour ton business et que tu n'as pas envie, tu y donnes du sens. Et la troisième chose, si vraiment tu n'arrives pas à trouver du sens et que ça fait pas et que ça, tu ne prends pas le plaisir, soit tu délègues, soit tu arrêtes.
Soit tu trouves une alternative pour arriver avec un autre, au même résultat, avec une manière qui te correspond beaucoup plus.